Dans une première question écrite, on me demande, qu'entendez-vous par entraide dans une petite communauté CEP? Il y a deux types d'entraide qui sont prévus dans les petites communautés. Elles n'entrent pas en exercice nécessairement à chaque rencontre, mais on demande aux gens de se trouver dans une disponibilité d'entraide, dans un esprit d'entraide. On ne se retrouve pas dans une communauté pour être là juste ensemble pendant 3 heures de temps. Une communauté, une vraie de vraie communauté, c'est un désir de, si nécessaire, entre les réunions, on peut s'entraider. Alors, il y a un premier type qui est celui qui se manifeste le plus souvent, quelqu'un qui passe à travers une épreuve particulièrement douloureuse. Quelqu'un vient de subir un revers de fortune, quelqu'un vient de perdre son conjoint, quelqu'un vit une question de vient d'abandonner son sacerdoce ou sa vie religieuse et tout cela, c'est sûr que ça va se manifester dans la période du partage. Mais pour éviter que toute la réunion se déroule sur le cas de quelqu'un qui est en train de vivre un divorce, une séparation ou l'emprisonnement de son enfant ou quelque chose comme ça, on demande à ce moment-là à la communauté de s'entraider pour aider ce couple ou cette personne en dehors de la réunion. Et alors, il se crée un genre de volontariat de quelques personnes. Si on est 10-12 dans la communauté, on n'a pas besoin d'être rendu les 10 jours, les 10-12 tous les jours chez ce frère ou cette sœur. On n'a pas besoin les 10-12 de téléphoner pour prendre des nouvelles, puis tout ça, puis renchérir et puis écraser l'autre par la communauté en voulant bien l'aider. Alors, ce qu'on suggère aux gens, entendez-vous entre eux, il est à l'hôpital, ben, il n'y a pas besoin de le fatiguer avec un défilé de toute la communauté, que quelques-uns désignés s'entendent, puis vont le visiter tel jour, tel autre jour. Ou quelqu'un qui vit une dépression, qui vit quelque chose, il faut qu'il sente que la communauté l'accompagne dans sa dépression, mais il ne sera pas à l'aise si c'est tout un régiment qui l'accompagne. Alors, l'entraide, à ce moment-là, prend l'attitude, l'allure d'un petit comité de soutien proportionné au désir de la personne. On lui dit, tu sais, nous autres, la communauté, on aimerait bien t'aider dans l'épreuve que tu traverses. Accepterais-tu que quelques-uns, au nom de la communauté, soient plus disponibles? Téléphone-leur, va les voir plus souvent, parle de ton problème, et tout ça. Et nous sommes, à ce moment-là, les ambassadeurs de la communauté plus grande. Ça, c'est une forme d'entraide. Mais ça se produit quand besoin est senti. Une autre forme d'entraide que nous n'avons pas encore commencé à propager, parce qu'elle est extrêmement délicate. Et puis, comme les petites communautés restent ensemble un an et demi, on ne met pas la priorité là-dessus. C'est l'entraide sous la forme de la monition ou de la prémonition spirituelle ou fraternelle. Quand on s'aperçoit dans la vie que quelqu'un qu'on aime pourrait améliorer sa prière ou pourrait se détacher de quelque chose qui est un obstacle, c'est sûr qu'on peut attendre qu'il se heurte au mur. Mais c'est sûr également que si on a la grâce d'État et de doigté, on peut attirer son attention avant qu'il se frappe sur le mur. Ça a toujours été prévu, ça, dans l'Évangile, l'admonition fraternelle, la correction fraternelle, la prémonition. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de la faire comme il faut, puis c'est surtout pas tout le monde qui est capable de l'accepter. Mais le Seigneur nous a mis dans le cœur qu'il faudrait un jour devenir assez communautaire pour être capable, dans l'amour, de dire à quelqu'un « surveille ceci, surveille cela » et être capable de souhaiter que les autres nous aident avant qu'on l'expérimente, qu'on en expérimente nous-mêmes les dangers. Mais c'est en réserve, disons que c'est dans le frigo pour le moment, on ne l'exclut pas, mais on n'a pas encore eu le signal du Seigneur pour dire « faisons-le régulièrement ». Alors, c'est quand on parle d'entraide, c'est ça. Maintenant, s'il monte dans le cœur des membres d'une communauté, tout à coup de s'occuper d'une œuvre, de passer à l'action, d'entreprendre une mission, là, on leur demande ceci. Faites un comité indépendant, mais ne prenez pas la petite communauté CEP pour en faire tout à coup un mouvement d'action, parce que vous allez répéter la mauvaise expérience séculaire de l'Église, de tous ces groupes qui, à un moment donné, avaient pour but de nous aider spirituellement, ont commencé à s'engager dans l'action, ont été accaparés par l'action, ont diminué leur alimentation spirituelle, puis à un moment donné, sont devenus anémiques et sont devenus des groupes d'action. Alors, dans les petites communautés CEP, il nous a été recommandé de s'en tenir à l'objectif que le Seigneur lui a donné, une école, un apprentissage au vrai de vrai communautaire. Mais ça se peut qu'à un moment donné, quelques-uns soient inspirés à telle chose. Eh bien, on leur dit, formez votre petit groupe d'action, mais indépendamment de la communauté, pour pas que la communauté ait d'éléments divisifs. Parce qu'un groupe d'action, vous savez comme moi, ça suppose une lecture des besoins, une interprétation des méthodes à prendre pour répondre aux besoins, autant de domaines où on peut avoir autant d'opinions. Il y en a qui vont vous dire « c'est ça qui est plus urgent », d'autres vont dire « non, c'est ça qui est plus urgent », d'autres vont dire « il faudrait commencer par ceci », d'autres vont dire « il faudrait commencer par ça ». Et tout le monde a raison, c'est des méthodes différentes. Mais ça amène des discussions, des affrontements, des tensions, des divisions. Et c'est pour ça qu'il faut loger ça en dehors de la communauté. Si on rentre ça dans la petite communauté CEP, à ce moment-là, on risque de gâter la sauce. Donc les petites communautés CEP sont là, comme des étoiles filantes qui, à un moment donné, on monte à bord, après ça, on les laisse filer, et puis le but, c'est d'apprendre à être de plus en plus de vrais communautaires chrétiens. Il y a deux autres questions qui m'ont été posées là, je fais comme si elles étaient écrites. La première, ça a été de dire comment on recrute les membres d'une petite communauté. On est parti, nous, dans la foi. Dans la foi suivante. Le Seigneur nous a donné un enseignement. On a accueilli l'enseignement. Puis on lui a dit comment ça se passe, une communauté. Dans notre cas, nous étions déjà en place aux fondations. On l'a vécu. Mais quand il s'est agi de propager ça en dehors des fondations, on lui a dit, Seigneur, es-tu capable de nous montrer ta méthode? Et sa méthode a été celle-ci. Il nous a donné un signe, puis il a dit, quand vous recevrez ce signe-là, ça veut dire que là, vous pouvez commencer à rendre ça public. Et le signe est venu en 81. Le signe avait été convenu depuis 75, mais j'ai eu la... ça s'est confirmé en 81, et le signe était celui-ci, qui avait été nous avait monté dans le cœur que deux couples communiquent avec nous et nous disent ceci. Ouvrez les guillemets. Nous sommes deux couples de chrétiens qui voulons faire quelque chose, mais qui ne savons pas quoi. Voulez-vous nous aider, Monseigneur? Fermez les guillemets. C'était ça qui était venu dans la prière d'Isabelle Gauvin. Alors, on l'a écrit, comme elle m'avait habitué à procéder. Elle m'a dit, mets ça dans ton bréviaire, puis mets ça sur le tabernacle. Puis, en 81, un bon dimanche, elle était décédée. Je reçois un téléphone, j'étais à Ottawa. Je reçois un téléphone de Montréal. Habituellement, je ne répondais pas au téléphone à cette heure-là, mais à ce moment-là, j'étais porté à téléphone. Et j'entends ça au téléphone. Nous sommes deux couples de chrétiens qui voulons faire quelque chose, nous ne savons pas quoi, voulez-vous nous aider? Puis là, je n'en croyais pas mes oreilles, je suis allé chercher mon bréviaire, j'ai sorti ma petite feuille, j'ai dit, voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Puis je regardais le texte mot à mot. J'ai dit, bien volontiers. Alors que c'est pas mon genre de m'engager dans des choses qu'on ne sait pas quoi. Ils me demandent de les aider dans je ne sais pas quoi, puis moi je plonge. Mais c'était parce que c'était le signe qui, donc, était peu probable, humainement parlant. Et on est allé là. Je me suis rendu à Montréal, puis j'ai dit à ces deux couples-là, je vais vous poser deux questions. Je ne vous donne pas la réponse, je reviendrai dans un mois, puis prions pendant un mois. Et si vous me donnez les deux bonnes réponses, je vous accompagnerai. Alors, imaginez-vous, je leur pose la première question. Voulez-vous faire un groupe de prière ou voulez-vous faire une communauté chrétienne? Parce que c'est deux choses bien différentes. Mais je ne leur dis pas quelle est la différence. Deuxièmement, je leur dis, voulez-vous faire l'œuvre du Seigneur ou une œuvre pour le Seigneur? Et à ce moment-là, les enseignements qui circulent n'étaient pas sortis. Moi, je les connaissais, je les vivais, mais eux n'en savaient rien. Alors j'ai dit, priez de votre côté, si je reviens dans un mois, puis donnez-moi votre réponse. Je suis revenu et j'ai dit, maintenant, les deux questions. Ils ont dit, on a prié, on veut faire une communauté chrétienne et on va faire l'œuvre du Seigneur. Mais posez-nous pas d'autres questions, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et c'était mon signe. Et alors là, j'ai dit, j'ai commencé à vivre avec ces personnes-là la formule CEP, sans dire que c'était la formule CEP et que c'était une communauté inspirée ou quoi que ce soit. Avec ces quatre-là, à cinq, on a prié et on a dit, Seigneur, nous allons vivre une expérience, mais on serait heureux si tu nous envoyais 15 autres personnes, une vingtaine de personnes au total. Maintenant, on serait encore plus heureux si tu envoyais là une grande variété. Envoie-nous quelques charismatiques, quelques anti-charismatiques, des coursilistes, des gens de la spiritualité Sainte-Thérèse, Saint-Ignace, des gens qui ont été dans aucun mouvement, une belle variété, Seigneur, pour qu'on fasse une expérience communautaire intéressante. Et à la deuxième réunion, nous étions 20, puis il y avait des charismatiques, des anti-charismatiques, des coursilistes. Ils sont venus, ne demandez-moi pas comment, on n'a pas couru après. Ça a débloqué comme ça. Alors, on a vu que lui voulait former ces petites communautés. Et depuis ce temps-là, on dit aux gens, comment partir une communauté? Dites tout simplement, comme je dis tout le temps, adressez-vous au bureau chef. Dites au bureau chef, il y a une succursale en bas que je suis. Je suis prêt, Seigneur, à m'engager dans l'expérience d'une petite communauté. CEP, veux-tu, s'il vous plaît, m'envoyer quelques personnes de ton choix? Et là, si vous êtes patient plus que 24 heures, ça devrait commencer à se manifester dans les semaines ou les mois qui suivent, et de deux façons. Ou il va vous venir dans le cœur des noms à répétition, c'est-à-dire que non, c'est le même nom, mais qui revient. Puis vous dites, pourquoi je pense à un tel? Pourquoi je pense à ce couple-là? Pourquoi je pense à telle religieuse? Pourquoi? Et là, dans la foi, vous partez dire à cette personne-là, est-ce que ça vous intéresserait de faire partie d'une petite communauté? Et vous allez vous apercevoir que le Seigneur avait déjà mis dans le cœur de cette personne-là à peu près ce que c'est qu'une communauté. Puis elle va dire, oui, ah, ça m'intéresse, j'y songe. Ou c'est l'inverse. Il ne vous met pas un nom dans le cœur, mais il met votre nom dans le cœur d'une autre personne. Et vous allez avoir des gens comme ces deux couples-là qui vont arriver avec vous, vers vous, puis ils vont dire, moi, je ne sais pas là, je cherche quelque chose, je voudrais faire quelque chose, je ne sais pas quoi, as-tu des idées à me donner, comme ce couple? On veut faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et là, vous allez mettre sur la table la description de votre projet de petite communauté 7. Et vous allez être surpris, ils vont dire, ah ben c'est ça que je cherchais, j'en savais rien. Les autres, ils en savaient quelque chose, ils ne savaient pas où s'adresser, tant que le Seigneur vous donne son adresse. Les autres ne savaient rien, mais vous savez, le Seigneur leur donne votre adresse. Et ça vient des deux côtés en circuits différents. Et tout à coup, vous allez vous retrouver, et vous vous réunissez une première fois. Et là, c'est important de mettre toutes les cartes sur la table. Les 6 ingrédients, les 3 choses qu'il faut faire. Il peut arriver des exceptions qu'à un moment donné, on a tellement bien partagé, tellement bien prié, qu'il reste très peu de ressourcement. Il ne faut pas être maniaque du un tiers, un tiers, un tiers. Il faut de la souplesse amicale. Alors, bon. Puis vous allez commencer, mais il faut dire que à chaque réunion, on vient pour ces 3 choses-là. Puis le Seigneur a expliqué que psychologiquement et spirituellement, les gens qui viennent à une même réunion ne viennent pas avec la même faim et la même soif. Il y en a qui, après la semaine qu'ils viennent de vivre, ils ont besoin de prier. Ils n'ont pas le goût de partager tellement. Il y en a d'autres là, qui ont quelque chose là de douloureux ou d'heureux qu'il faut absolument qu'ils partagent. Il y en a d'autres là, ils sont crevés, ils sont vidés, puis ils auraient besoin d'être... Alors chacun vient, les uns en mettant en tête de liste le ressourcement, les autres le partage, les autres la prière, et si on laisse tomber un des 3, il y en a quelques-uns qui vont être déçus. Donc les 3 sont nécessaires pour répondre à ce qui est la vie courante des chrétiens qui se réunissent. Et l'autre chose, il faut dès le début leur dire, là, on forme une petite communauté, mais ce n'est pas un bail de 99 ans. On est ici, là, pour 1 an et demi, et après ça, il faudra se demander si on a le droit de garder ce qu'on a découvert pour nous. Il faudra être en disponibilité pour l'Église. Alors, c'est comme ça que ça part. Et on n'a pas vu d'exception. Ben, c'est-à-dire, oui, on a vu 2 ou 3 exceptions, puis je vais vous expliquer pourquoi. Quand les gens ont fait une équipe, puis ils décident d'essaimer, se mettent en disponibilité, bon, 2e communauté se reforme comme rien, puis la 3e. Et puis, il ne faut pas stéréotyper le type de membre qu'on veut. Ce n'est pas parce qu'on est un industriel qu'il faut penser à une communauté d'industriels. Ce n'est pas parce qu'on est un professionnel ou un ouvrier qu'il faudra avoir, parce qu'on est instruit ou pas instruit, non. Le Seigneur, lui, sait faire sa salade au fur et à mesure, et il met ensemble ceux qu'il veut mettre ensemble pour tel moment de notre vie, et il ne faut pas intervenir dans ce mécanisme-là. Quand on se retrouve ensemble pour la première fois, bien, c'est là qu'on décide de demander à quelqu'un s'il n'accepterait pas d'être un premier de cordée. Premier de cordée, il est dans la cordée, mais il est au bout du câble. Et quel est son rôle, le premier de cordée? C'est pas d'être un animateur, c'est pas de porter la communauté, c'est pas de structurer la communauté, c'est de voir au minimum. Quel est le minimum? Ben, c'est qu'on s'entende sur la même date puis la même place si on veut se retrouver. Qu'on s'entende pour savoir qui va faire le ressourcement, pour qui prie puis qui pense avant. Mais le reste, ça doit se dérouler comme ça par enchantement. Et bon, ça prend quelqu'un qui dit à un moment donné, bien, on a peut-être partagé, ce serait peut-être le temps de se reposer. Mais ça ne demande pas un doctorat, ça ne demande pas des sessions de formation, et on ne fait jamais de sessions d'entraînement des premiers de cordée. C'est la petite communauté qui se le donne. Si au bout de quelque temps, quelqu'un dit, ben moi, nommez-en un autre, on met un autre, c'est pas plus compliqué que ça. Mais il faut qu'il y en ait un. L'idée là, de la démocratie, pour la démocratie, c'est l'affaire de tout le monde, ça finit par être l'affaire de personne. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, devant le Seigneur, dise en avant, marche. Je porte la communauté. Mais quand je dis je porte, je rappelle au Seigneur de la porter. Je me rapporte au Seigneur, mais et je la porte au Seigneur. Et mais pas quelqu'un là, qui prend ça là, comme si on venait de lui remettre là, General Motors sur les épaules. C'est pas ça du tout. C'est quelque chose de très léger. De temps en temps, à l'occasion, quand on va dans différentes petites communautés, je suis obligé de dire à quelqu'un, vous prenez ça trop au sérieux. Vous prenez ça plus au sérieux que le Seigneur. Laissez le Seigneur prendre sa petite communauté au sérieux, puis vous, là, goûtez à la communauté. Il n'y a pas de raison d'être stressé, il n'y a pas de raison d'être préoccupé. On porte pas la communauté, on supplie pas les gens de venir. S'ils veulent pas venir, qu'ils viennent pas, ils sont les perdants. Mais on n'essaye pas de faire un succès comme ça. Et c'est là qu'est la joie de la petite communauté 7. Bon, ça c'est les questions que j'avais reçues, vous en avez sûrement d'autres. Oui? Le pardon signifie ce qu'il signifie dans toute la vie de l'Église, dans toute la théologie, c'est que on reste dans un climat de pardonner pour être pardonnant. C'est-à-dire qu'on se rappelle de temps en temps, par un mot, à l'occasion, que nous sommes tous des pardonnés, qu'on a reçu le parfait don de Dieu, qui a nettoyé nos fautes sans hésiter, complètement. Et c'est dans la mesure où on se rappelle qu'on est des pardonnés, qu'on est capable d'être pardonnant. Et s'il arrivait quelque chose, qu'un membre de la communauté avait offensé quelqu'un, on n'hésite pas à leur demander de se pardonner. Mais on n'attend pas les fautes pour faire ça. On reste dans un climat. Donc, moi, quand je participe à une petite communauté, de temps en temps, je rappelle cette idée-là pour qu'on reste dans une climatisation de cette générosité de don d'amour. Le pardon est une générosité de don d'amour qui fait qu'on ne retient pas ce que l'autre ne fait pas ou fait contre lui, mais on laisse l'amour nettoyer ça. C'est dans ce sens-là. Parce qu'on ne pourrait pas arriver à une petite communauté fraternelle s'il y avait des blocages de pardon. Mais je me rends compte que quand tout ça est en place, et qu'on respecte les 6 ingrédients et qu'on vit comme ça, c'est pas là qui se fait le plus d'offense sur la terre. Oui? Le ressourcement se fait à travers le vécu. Et la collaboration du Seigneur qui vient dégager la richesse de notre vécu sur un point. Comme cette dame dont je parlais, la prière, elle s'est pas contentée de nous dire comment elle prie. On lui a interdit d'aller fouiller dans les auteurs sur la prière, mais avec la grâce du Seigneur, elle est venue à bout de dégager, de décanter en elle que prier, c'était ceci. Prier, ça lui avait donné cela. Prier pour elle, ça refaisait ceci. Prier, ça préparait cela. Question qu'elle ne s'était jamais posée. Elle avait bien des notions sur la prière, mais elle n'avait jamais, comment je dirais, fait mijoter en elle pour dégager là, les leçons de vie que la prière lui apportait. Et ça, c'est plus précieux de lire dans son livre pour elle que d'aller chercher ça dans les livres des autres. Et quand ça a été conscient pour elle, elle nous l'a donné, le Seigneur est parti de là pour développer encore son enseignement. Puis je suis sûr que si on lui redemandait la semaine prochaine de faire un ressourcement sur la prière, on pourrait voir le cheminement fait par elle, en elle, avec elle et au milieu de nous sur la prière. Alors, je ne juge pas les autres types de ressourcement. Se ressourcer à partir de la parole de Dieu, c'est excellent. À partir d'un enseignement, d'une cassette, d'un volume, tout ça est à notre disposition. Mais ce qu'on essaye de découvrir, c'est toute cette richesse et possibilité inexploitée, inexplorée, inutilisée. Et c'est très important ça, que quelqu'un découvre ça. Ça veut dire que dans la vie, si on se réunit à tous les 15 jours, 3 semaines, ça peut être à mi-chemin qu'on a une épreuve, qu'on a besoin d'élever son âme, qu'on a besoin de se ressourcer. Puis si on se dit, bien, c'est dans 10 jours que je vais être ressourcé, mais c'est aujourd'hui que j'ai faim puis j'ai soif. Cette possibilité à domicile, à travers la foi et l'action de la grâce qu'on a appris à laisser remonter comme ça. Et quand on a appris ça, je vous assure qu'on se ressource partout où on est. Donc, je dis en blaguant, au lieu de s'épuiser à aller se ressourcer, on apprend à puiser. On peut continuer à s'épuiser, mais puisons. Oui? Oui, c'est un manque d'humilité, c'est ce qu'on nous a dit, mais à mon avis, c'est faux, parce qu'on ne raconte pas notre histoire à nous, mais son histoire à lui. Et on voit toute la différence quand quelqu'un nous raconte son histoire sainte à lui, avec un petit L, ou son histoire sainte à lui, avec un grand L. Et c'est à ça qu'il faut s'habituer. Il est sûr, je ne vais pas démolir d'un seul coup, c'est pas mon genre, mais ce qu'on a toujours dit, ce qui se passe entre le Seigneur et nous, c'est le secret du roi. Il y a des choses, si j'ai une grande grâce mystique, il faut que je demande au Seigneur, est-ce que j'ai le droit de la partager ou non? S'il me dit non, c'est entre nous deux, ça reste là, ça c'est un secret du roi. Mais c'est pas à moi de décréter que tout ce que je vis avec le Seigneur, c'est le secret du roi. Et c'est ça peut-être l'erreur qu'on a fait. On s'est caché derrière ce secret du roi pour ne rien dire. Puis en ne disant rien, puis en enfermant tout, à un moment donné, on est bloqué avec ça, puis ça stoppe la croissance. Puis croyez-moi, l'orgueil spirituel, il n'existe pas rien dans le partage. Il existe tout autant dans le non-partage. De gens qui gardent ça là, puis moi, je suis quelqu'un. Moi, je vis quelque chose. S'ils savaient, je ne leur dis pas. Mais l'orgueil, j'ai vu plus d'âmes orgueilleuses spirituellement parce qu'ils gardaient leur petite conserve aux autres que s'ils avaient été allés, ils seraient devenus plus humbles. Parce qu'il serait aperçu qu'il n'était pas tout seul à avoir ces grâces-là, puis il se serait aperçu que d'autres avaient quelque chose à leur donner. Alors, c'est une zone où je ne mets pas de côté le danger d'orgueil spirituel, mais je suggère que quand on raconte, il faut vraiment partager cette joie, cette conscience du Seigneur à l'œuvre. Parce que c'est, si on met en évidence le Seigneur, ce n'est pas nous autres qu'on met en évidence. Puis le Seigneur, il œuvre à la grandeur du monde. Là où il n'a pas l'air de vrai, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, puis qu'il n'est pas capable. C'est parce que les gens ne le laissent pas œuvrer. Alors, c'est dans ce sens. Oui?
Vous avez l'expérience de groupe de prières qui sont venus?
Comme groupe de prières, non, je ne le recommande pas, parce que c'est une dynamique différente. Et le communautaire à 30, 40, 50, 100, 200, c'est pas la même chose. Les partages ne peuvent pas être la même chose. On ne se lance pas comme ça devant un groupe que l'on rencontre de temps en temps, comme on peut se lancer dans un petit groupe. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, et j'ai l'air de dire ça dans les dernières 4 minutes, je souhaite de tout mon cœur de voir nos groupes de prière encourager leurs membres à ajouter ça dans leur vie. Parce que beaucoup de gens qui ont appris à beaucoup prier, donc ont vu leur vie spirituelle éclore, croître, ont une espèce de débordement qui ne réussissent pas à faire déborder dans des assemblées où on ne peut pas laisser quelqu'un prendre de la parole pendant la moitié du temps. Mais si ce qu'ils vivent ne sort pas, il faut que ça sorte en quelque part. Et c'est peut-être la grâce que j'ai constatée dans ce voyage de cette année ici en Belgique. J'ai rencontré à Anvers un groupe de prière, l'Eau Vive, où l'année dernière j'avais parlé du communautaire, puis il y a 5 petites communautés, 7, qui ont démarré. On les a rencontrés pour leur demander les bienfaits, ils sont enchantés de ça. Là, je leur ai dit 2 choses. Maintenant, ouvrez la porte des 2 côtés, c'est-à-dire laissez entrer, jusqu'ici, ne laissez entrer que des gens du groupe de prière, dans une petite communauté 7. J'ai dit, ouvrez la porte de l'autre côté, parce que le Seigneur va commencer à vous envoyer des gens qui vont faire l'inverse, qui vont rentrer d'abord dans une petite communauté 7, puis après ça, vont vouloir ajouter le groupe de prière. C'est comme ça que vous allez avoir une circulation. Lundi soir, j'ai accepté prochain de rencontrer un groupe de prière, Siloé, je pense, qui justement, où ils ont des petites fraternités, ou une ou l'autre qui commence, et ils voudraient faire un partage là-dessus pour voir si c'est bien parti. Et moi, c'est ce que je vous suggérerais. À ce moment-là, si le renouveau en prière s'ouvre au communautaire, c'est par le communautaire et la prolifération des chrétiens communautaires que vous allez entrer plus facilement à l'intérieur de l'Église, des paroisses, des mouvements, des communautés religieuses. Il y a des milieux où les groupes de prière peuvent entrer par la grande porte, puis il y a d'autres places où il y a comme des allergies. Le communautaire, lui, va être un passe-partout discret, efficace, puisque ce n'est pas une structure. C'est des gens qui deviennent communautaires. Donc, je pense qu'il y a là une étape inspirée du renouveau en Église belge. Oui?
Quelques personnes m'ont demandé comment accueillir des nouveaux dans la communauté.
Bien, je suggère que la première chose, c'est de discerner si cette personne-là vient d'elle-même. Le discernement instrumental, il y a 3 catégories de gens que le Seigneur met sur notre route. Ceux qui l'envoient, ceux qui s'envoient eux-mêmes et ceux que le malin envoie. Et par conséquent, vous allez être, quand vous formez des petites communautés CEP, vous allez avoir une triple clientèle qui va vouloir entrer dans la communauté. Ceux que le Seigneur vous envoie, ceux qui s'envoient eux-mêmes et ceux que le malin va essayer d'entrer. Alors, le discernement doit se faire. Il doit se faire par la personne qui recommande. Dis-moi, je connais un couple, puis j'aimerais ça, puis serait intéressé à venir à la petite communauté. Je vous le propose. Mais pas amener quelqu'un de but en blanc, sans avis, devant une communauté, ça c'est des courts-circuits à tout coup. Mais on y pense, on y prie. Et là, on fait un discernement spirituel, pas un discernement humain. J'aime sa figure, j'aime pas sa figure, il me déplaît, il m'énerve. Non, on prie, puis est-ce qu'on croit que le Seigneur l'envoie? Et le Seigneur nous met la paix, nous met le calme, on sait qu'il est envoyé par le Seigneur. Deuxième démarche, la personne qui l'a proposé lui dit un peu avant les exigences d'une communauté CEP. Trois choses à ne pas lâcher. Une ouverture, l'essaimage, voilà les cartes du jeu au point de départ. Après ça, la personne vient, on l'accueille, puis après deux, trois réunions, on a l'impression qu'elle est là depuis 25 ans. Ils ont l'impression, oui, depuis 18 mois. Bon, alors mes chers amis, je vais être fidèle à ma promesse. Il est 5h02 à ma montre canadienne, il y a peut-être une autre heure ici. Alors, ça a été une joie pour moi d'accepter l'invitation reçue par Annick Jacob. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à y répondre. Que Dieu vous accompagne et soyez et multipliez-vous en tant que vrai de vrai communautaire. Amen. Alléluia. Accueilli ici, auprès de Jésus au Saint-Sacrement, nous te remercions pour cette rencontre. Tu l'avais préparée de toute éternité. Tu as rendu disponible notre temps, nos personnes et notre cœur. Tu as permis, Seigneur, que je partage ton vin nouveau avec mes frères et sœurs, et que pendant ces 3 heures, tu m'as fait sentir ton amour profond pour tous mes frères et sœurs de Belgique et à travers eux du monde entier. Et tu me demandes dans le cœur, avant de quitter, de te prier pour une effusion d'amour trinitaire, à l'heure et de la manière que tu voudras, dans le cœur de tous ceux et celles qui sont ici aujourd'hui, et à travers elles, leurs familles, leurs amis et le monde entier. Et c'est de tout cœur que, fidèle à ton appel, je te demande que ton amour de cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit-Saint, descende maintenant et pour toujours en mes frères, en mes sœurs, en toute la communauté universelle de la terre. Amen. Alléluia.